les informations, Olivier Nbunga.
Certaines entreprises du Katanga seraient-elles des vaches à lait pour le PPRD? En tout cas, c'est ce que dit le rapport NISA. L'ONG Institut néerlandais pour l'Afrique australe décrit le flux financier dont bénéficie ce parti dans cette province. Faisant charge des dépendants des militaires du centre de Loubérisi, toujours en casse-tête, plus de 2000 femmes et enfants vivent dans des écoles et églises et même sous les arbres, en dehors bien entendu de ce centre du Sud Kivu. Toujours pas de bourgmestre dans la commune de Nganza à Badolité. À la base, la confusion naît suite à la nomination d'une même personne pour les communes de Nganza à Kananga et à Badolité. Il y a une année, face à cet imbroglio, un fonctionnaire de l'État se présente à Badolité pour réclamer ce poste. Bonjour, nous ouvrons ce journal par ce rapport qui fait tache d'huile à Lubumbashi. L'Institut néerlandais pour l'Afrique australe dénonce le flux financier dont bénéficie le PPRD de la part de certaines entreprises au Katanga. Pour l'ONG NISA, certains financements émanent du portefeuille de l'État. Elle en veut pour preuve une lettre signée par le président du PPRD Katanga, adressée au secrétaire général de ce parti et qui mentionne les donateurs du PPRD dans la province. Le président fédéral du PPRD Katanga, Richard Muyej Mungwez-Mans, dit pour sa part qu'il n'y a rien d'anormal à tout cela. Récit de Paulin Munanga.
Ce rapport de 80 pages intitulé « L'État contre le peuple » reprend la lettre du bureau du conseil provincial avec comme objet la dynamique du PPRD Katanga. 17 noms des mandataires des deux grandes entreprises locales, la Gécamine et la SNCC, et ceux des responsables d'entreprises œuvrant au Katanga comme Somika ou Société East China sont cités. Richard Muyej Mangez-Mans affirme que ces personnes ont cotisé de leur poche.
Il est interdit à tout parti politique de chercher de financement auprès des entreprises publiques. Mais la lettre ne cite pas les entreprises publiques. La lettre cite de personnalités congolaises qui étaient à ce moment-là mandataires dans ces entreprises publiques. Ils ont cotisé de leur poche, de leur salaire et pas de la caisse de l'État.
La Zado Katanga, qui a été en charge de la distribution du rapport, fait savoir qu'il s'agit tout simplement d'une stratégie prise pour protéger certaines entreprises qui ont été citées dans le pillage des ressources naturelles par certains rapports. Ces propos sont confirmés par Jean-Claude Katende, président de la Zado Katanga.
Et vous allez voir que les entreprises qui sont citées dans ce rapport sont celles qui sont installées ici contre le gré, la volonté de la majorité des populations du Katanga, et que d'autre part, ce sont des entreprises qui ont bénéficié des contrats léonés.
La lettre précise que cette cotisation s'inscrit dans la capacité à mobiliser les ressources pour animer la vie du parti. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Grogne des agents de la CEI au Sankuru dans le Kasaï oriental. Plus de 600 agents recenseurs demeurent impayés depuis le mois de septembre dernier. Fatigués d'attendre, ils multiplient des réunions et profèrent des menaces au bureau relais de l'Odja. Après avoir tenté d'incendier ce bureau au mois de décembre dernier, ils menacent maintenant de saisir le matériel électoral. C'est ce qui ressort de leur réunion tenue le week-end dernier à l'Odja. Le porte-parole des recenseurs du Sankuru, Pascal Dienena, est au micro de Basile Bakumbani.
Nous réclamons l'argent des recensements depuis septembre qu'on a travaillé jusqu'alors. On ne paye rien. Plus c'est tout Katako, Lomela, Kole, y compris une partie de l'Odja. On trouve des anomalies, des détournements de fonds à la CI. Si on ne traite pas bien les agents, comment on va travailler? On a accordé 48 heures pour qu'on puisse régler notre situation. Dépasser 48 heures, nous allons saboter la commission électorale au Sankuru. Nous allons confisquer les matériels. Et quand on va nous empêcher, ils seront lapidés.
Au bureau relais de l'Odja, on craint que ces nouvelles menaces ne puissent porter atteinte à la vie privée des agents. Pour Basile Dimandja, chef de bureau relais, ils sont victimes de la lenteur de la hiérarchie de la CEI. Il est au micro de Basile Bakumbane.
C'est un problème qui concerne la Caritas. Les agents de la Caritas sont venus, ils ont fait escale à l'Odja, ils n'ont fait que 2 heures, et ils ont payé 9 agents recenseurs de Katakokombe, et ils sont repartis 2 heures après avec tout l'argent. Je suis en insécurité parce que l'autre fois, ils voulaient attenter à ma vie. J'ai été à 2 reprises à Kinshasa, j'ai fait des rapports sur le non-paiement des agents recenseurs de mon ressort, mais Kinshasa ne bouge pas, ce n'est pas de ma faute, et j'attends toujours, l'espoir fait vivre.
Notez que les agents du bureau relais de l'Odja se plaignent aussi de 3 mois d'arriérés de salaire. échanger avec les journalistes de Kinshasa sur les enjeux du traitement de l'information en période électorale. C'est à cet exercice que les journalistes réunis hier au Centre culturel américain ont été soumis au cours d'un séminaire d'échange d'expériences. Pour Ferdinand Ferrella, journaliste à La Voix de l'Amérique, le traitement objectif de l'information électorale, au-delà de ses sensibilités personnelles, permettra aux journalistes d'accomplir un travail de bonne qualité. Ferdinand Ferrella est interrogé par Jacques Matande.
On a tous une sensibilité politique. Il est important plus que jamais pendant la campagne électorale de faire abstraction de cette sensibilité pour essayer de donner à l'auditeur les éléments qui lui permettra de faire un choix éclairé le jour où il se rendra aux urnes. C'était un échange très intéressant. À la fin du séminaire, on s'est rendu compte que des reportages qui au départ étaient un petit peu boiteux, à la fin du séminaire étaient quand même très bien, étaient très attrayants. Si les participants au séminaire ont compris qu'il y a moyen de l'améliorer et que le meilleur moyen de l'améliorer, c'est de faire appel aux autres, aux confrères, parce que là, comment on a travaillé? On a travaillé en groupe, hein, chacun s'est entraidé. Et si la profession s'entraide, il y a moyen de faire un excellent travail.
9h06 dans l'est du pays, la prise en charge des dépendants des militaires au brassage continue à poser problème à l'extérieur du centre de brassage de Loubérizi. C'est dans la plaine de la Rouzizi. Plus de 2000 épouses et enfants de ces militaires logent dans des infrastructures publiques, notamment dans des écoles et des églises et même sous les arbres. Conséquence, ces familles sont exposées aux intempéries. Une majeure partie de ces familles viennent du sud Kivu et de la province de l'Équateur. Les détails avec Fiston Ngoma.
Tout le matin, les familles des militaires du centre de brassage de Loubérizi doivent libérer les salles des classes où elles s'abritent pour la nuit. Arrivées il y a 3 semaines, femmes et enfants ont trouvé refuge à l'école primaire Vidiana de Loubérizi. Une situation difficile, surtout lorsqu'il pleut et que les locaux de l'école ou de l'église avoisinante sont occupés. Les dépendants disent ne recevoir aucune assistance ni du gouvernement, ni des organisations humanitaires. Le chef d'établissement Albert Tumilali indique que ses élèves connaissent parfois un retard pour entrer en classe lorsqu'ils doivent attendre l'évacuation de ses familles. Mais rien ne fait jusque-là, a-t-il souligné. Contacté, le commandant du centre de brassage et recyclage de Loubérizi, colonel Chulungu Otto Konembeso, annonce que seuls les militaires au brassage sont pris en charge. Il précise que c'est avec leur salaire que les militaires peuvent à leur tour s'occuper de leur famille à la cité. Par ailleurs, il déplore que cette présence handicape l'instruction des militaires qui quittent de temps en temps le centre pour aller assister les membres de leur famille à la cité. Les organisations humanitaires sont interpellées, a souligné le colonel Chulungu. Fiston Ngoma Mayabala, Uvira Radio Okapi.
Au Nord Kivu, des délégués des sociétés civiles du Burundi, du Rwanda et de la RDC en concertation depuis dimanche à Goma. Objectif, faire entendre leur voix auprès des décideurs gouvernementaux des trois pays dans le cadre des préparatifs à la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs. C'est la 4e rencontre des sociétés civiles de ces trois pays à Goma en 3 ans. Qu'est-ce que les 3 précédentes rencontres ont déjà produit comme résultat? Réponse du président du conseil régional, M. Kabanza Sylvestre. Ses propos sont recueillis par Jules Ngala.
Le premier résultat que nous avons acquis, c'est la conscience que les peuples congolais, rwandais et burundais doivent vivre ensemble. L'autre résultat, en août passé, nous avons élaboré un cahier de charges des attentes de la population et nous avons constaté que toutes nos propositions ont été prises en compte dans les projets intégrateurs ainsi que les protocoles d'accord qui seront soumis à la signature des chefs d'État et de gouvernement.
Par exemple, quelles propositions?
Les barrages d'Inga, par exemple. C'est normal que ces barrages soient réhabilités parce qu'ils peuvent alimenter plusieurs pays de la région en électricité et en même temps aussi alimenter les peuples congolais.
Oxfam suspend ses activités à l'intérieur du district de Lituri, décision prise par la coordination de l'ONG à la suite de l'insécurité qui prévaut dans les 8 localités où elle opère. Oxfam œuvre notamment sur l'axe Nyamavi à 60 km au sud-est de Bunia, le long du lac Albert, jusqu'à la localité de Djo. Le responsable du bureau d'Oxfam Bunia revient sur les motifs de cette décision. Suivez M. Ashley Sarangi.
On a laissé le véhicule à Café pendant l'attaque, parce que Café est dans la main de la milice. À ce moment, on a récupéré un de les véhicules et l'autre, ils sont en train d'être récupérés. Tous nos villages, on a 8 villages qui sont tous aux mains de la milice. Et aussi, il y a des rumeurs d'attaque qu'on a tout entendu à Chomia. Et pour le moment, il y a trop d'insécurité. On a arrêté de travailler pour le moment.
Propos recueillis par Charlotte Ngungi Selemani. Malaise en Nganza, dans la ville de Badolité, toujours pas de bourgmestre titulaire à la tête de cette commune de l'Équateur. Un ancien bourgmestre adjoint continue à assurer l'intérim. La situation perdure depuis près d'une année et le poste reste vacant. Cette situation fait suite à la confusion observée dans la dernière mise en place des territoriaux. Un seul nom de bourgmestre a été repris pour deux communes qui portent le même nom. Commune de Nganza de la ville de Badolité à l'Équateur et la commune de Nganza de la ville de Kananga au Kasaï occidental. Ce n'est pas tout, un fonctionnaire de l'État vient de se présenter à Badolité pour réclamer ce poste, mais les autorités provinciales n'ont pas reçu un acte le nommant. Askin Zibia pour le reportage.
Selon la mairie de Badolité, la commune de Nganza a été attribuée à la composante Mai Mai. Dans le dernier décret présidentiel portant nomination de territoriaux en RDC, une personne dont on ignore à Badolité l'origine a été retenue pour administrer la commune de Nganza. Par ailleurs, le nom de la même personne serait encore repris à la tête d'une autre commune qui porte le nom de Nganza au Kasaï occidental. Contacté, le maire de la ville de Kananga confirme M. René Boulouba comme bourgmestre de la commune de Nganza, un bourgmestre issu de la composante RCDN. Pour la mairie de Badolité, ce serait une erreur de retenir un seul bourgmestre pour deux communes différentes. Des démarches ont été entamées pour corriger cette erreur. Des démarches qui auraient abouti à la nomination par décret présidentiel de M. Yanga Lalonde comme bourgmestre de la commune de Nganza dans la ville de Badolité au nom de la composante société civile. Mais l'autorité municipale en place dit n'avoir reçu aucun document officiel attestant cette nomination. Le gouvernorat des provinces de l'Équateur en est informé à Mbandaka, mais la réaction tarde à venir. C'est Badolite, Askin Zibia Tayoro, Radio Okapi.
L'Office des routes déçu de l'évolution des travaux de réhabilitation de la nationale numéro 4, constat fait par l'administrateur délégué général de cette entreprise publique après une visite sur cet axe qui part de Kisangani à Beni, en passant par Nyanya. Pour Eli Ngomo, l'entreprise Tabet, qui est en charge de ces travaux, ne remplit pas convenablement sa part de contrat avec le gouvernement. L'ADG de l'Office des routes est au micro de José Deschartes-Menga.
Au niveau de rechargement de la route, l'entreprise accuse un retard immense parce qu'ils ne sont qu'à 14 km. Et au niveau de l'ouverture de la piste, ils sont également en retard parce qu'ils sont à 124 km. Et après avoir réuni les responsables de la mission de contrôle de l'entreprise au cours d'une séance de travail, nous avions eu à relever cela à leur intention pour leur dire que la convention prévoyait que les travaux s'exécutent dans 18 mois. Nous venons d'atteindre 12 mois. Donc il ne reste plus que 6 mois et comment ils pourront facilement couvrir tout le tronçon routier. Une mise en demeure leur a été donnée avec mission pour la mission de contrôle de leur demander d'augmenter le nombre d'engins, d'augmenter le nombre de camions et d'augmenter également le nombre du personnel pour que les travaux puissent au moins atteindre un niveau raisonnable avant la fin de la convention.
Au chapitre des pénalités, l'ADG de l'Office de route a déclaré que l'entreprise Tabet devra rembourser à l'État congolais 10% de la valeur du marché si elle n'arrive pas à exécuter sa tâche à l'échéance convenue. Ouverture hier matin à Brazzaville de la 6e réunion des chefs d'état-major généraux des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Les responsables militaires des États d'Afrique centrale doivent statuer sur la mise en place d'un état-major sous-régional de Brazzaville, une correspondance de Arsène Séverin.
La réunion des chefs d'état-major généraux fait suite à celle des experts militaires clôturée dimanche à Brazzaville. Au cours de leur rencontre, les chefs d'état-major examineront la possibilité de mettre en place un état-major régional pour l'Afrique centrale. Une cellule militaire fonctionne déjà à Libreville et les choses devaient aller vite, a dit le secrétaire général adjoint de la CEAC, l'ambassadeur angolais Jean Cosma. L'autre question est celle de la brigade en attente des pays de la CEAC. Une fois installée, cette brigade intervient en premier en cas de conflit armé en Afrique centrale. Les chefs d'état-major généraux, par conséquent, proposaient une date précise des premières manœuvres de cette brigade d'entente. Cette 6e réunion qui se tient dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité, COSIPAC, prend fin mercredi prochain à Brazzaville. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio 4.